Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Londres, frappé à son tour par un attentat revendiqué par Daesh. Washington, où Donald Trump est arrivé il y a seulement 2 mois et apparemment il a du mal à diriger le pays. Berlin, Angela Merkel en a assez de se faire insulter par Erdogan. Et puis Rome, ville du célèbre traité, le traité de Rome, hein, 60 ans. Depuis, comment se porte l'Europe moyen? Voici, c'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Bruno Tertrais. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et qui présente les 20 prochaines années, l'avenir vu par les services de renseignement américains. On va y revenir, bien entendu. Jean-Luc Seron, bonjour.
Bonjour.
Joyeux anniversaire quelque part, oui, puisqu'on va parler, je le disais, des 60 ans du traité de Rome. Professeur de droit européen à Paris-Dauphine et vous nous dites en permanence, faites l'Europe. Pas la guerre, oui,
alors justement. M'écouter.
Ouais, il faut l'écouter, oui. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Hein. Direction, donc, je vous en parlais, c'est Londres, hein, bien sûr, qui n'avait pas connu une telle attaque depuis 2005. Hein. Mercredi après-midi, un Britannique de 52 ans fonce sur des piétons présents sur le pont de Westminster, faisant plusieurs victimes, avant de bondir armé d'un couteau en direction du Parlement. Il tue un policier avant d'être abattu, ce témoin.
Tout le monde a tenté de s'enfuir par les barrières en face de Big Ben. Et un homme est passé à côté de moi avec un grand couteau et a commencé à l'enfoncer dans un policier. J'ai jamais rien vu de tel. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir.
Oui, attentat revendiqué par Daesh, alors que de l'autre côté, sur le continent, eh bien, Bruxelles se souvenait un an après des tueries de Zaventem et du métro de Bruxelles. Alors chacun a pu observer depuis l'attaque à Londres, la retenue de la police britannique, le flegme de la population quelque part, keep calm and carry on. Je cite le maire de Londres, Sadiq Khan, les attaques terroristes font partie de la vie d'une grande ville. Bruno Tertrais, Jean-Luc Seron, il a tout dit, il a tout résumé.
C'est quand même assez extraordinaire cette déclaration. Il a raison, mais rendez-vous compte, on en est.
Ouais.
Le maire d'une grande ville européenne dit les attentats font partie de la vie d'une grande ville, c'est comme ça.
On l'admet.
Je trouve ça, je suis très réservé par rapport à cette déclaration. Il a 100 fois raison, c'est une manière très britannique justement de dire que ben voilà, il faut s'y habituer, c'est pas parce qu'il y a quelques morts que la vie s'arrête dans une grande ville telle que Londres. Et en même temps, ça a quand même quelque chose d'assez effrayant. Alors, ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir que cette déclaration, elle n'est pas faite par n'importe qui, par un maire musulman, alors que celui qui a perpétré les attentats, c'est un musulman converti. Hein ? Vous voyez, il y a une espèce de renversement culturel et politique là que je trouve assez fascinant. Maintenant, tout le monde a salué à juste titre la manière dont les Londoniens, une fois de plus, ont réagi. Je ne sais pas s'il faut parler de flegme, mais en tout cas, là, si le mot résilience a une signification, s'attache particulièrement bien à la population londonienne.
Ben Jean-Luc Seron.
Ben je crois que moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le différentiel de contrôle de la rue entre Londres et Paris. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de militaires. Ouais. Alors, je n'ai pas de compétences pour valider l'un ou l'autre système, mais je pense que les cibles sont au moins équivalentes. Et aussi, un peu ce côté un peu morbide qu'ont les islamistes de faire les anniversaires. Genre, ce n'est pas un hasard si l'attentat, on verra bien ce que va dire l'enquête, a eu lieu le jour, justement, anniversaire des attentats de Bruxelles. Et c'est pas la première fois qu'il y a une façon un peu de rappeler l'anniversaire. Et sur le fond, je comprends ce que dit Bruno, et à la fois, c'est aussi faire comprendre à la population, c'est pas drôle, que c'est de la longue durée. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à des résultats à 6 mois, 1 an, ou une, voilà. Et ça, c'est important, parce qu'en France, on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui ont des solutions miracles. Et ça, je pense que c'est pas vrai.
Surtout en ce moment, donc, à un mois de la campagne. Autre déclaration d'un responsable politique britannique. Nous sommes une démocratie. Il n'est pas question de transformer le Parlement en forteresse. Oui, Parlement devant lequel se trouvait Theresa May, la Première ministre.
Hier, un acte de terrorisme a essayé de faire taire notre démocratie. Mais aujourd'hui, nous sommes là de nouveau, comme l'ont fait des générations avant nous et comme les générations futures le feront. Nous délivrons ce message. Nous n'avons pas peur et notre détermination ne faiblira pas devant le terrorisme.
Oui, Bruno Tertrais, suite à ce que vient de dire Theresa May, suite à ce que disait Jean-Luc Sauron, la question dans nos démocraties, et peut-être spécialement au Royaume-Uni, est-ce qu'on doit adopter un système à la française, avec des soldats en armes, avec un plan Vigipirate, avec un état d'urgence? Le policier qui a été tué, il n'était même pas armé devant le Parlement.
Oui, c'est la grande faiblesse et aussi la grande force des Britanniques. Comme l'a fait remarquer Jean-Luc tout à l'heure, il n'y a pas de dispositif sentinelle dans les rues de Londres. Alors attention...
Et la question s'était posée aussi en Allemagne, après Berlin aussi, de la même façon. Hein.
Oui, tout à fait. Si demain il devait y avoir 200 morts dans les rues de Londres, je suis à peu près certain qu'on aurait quelque chose du type sentinelle. Lorsqu'il y a eu le pic des attentats liés à la situation en Irlande du Nord, la guerre civile, la situation sécuritaire à Londres était autrement plus tendue qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ce type d'attentat quand même, en maraude, hein, avec un conducteur au volant d'une voiture, au volant d'un camion, comme à Nice, comme à Berlin, comme à Jérusalem également. C'est imparable, Bruno Tertrais.
C'est imparable tant qu'on veut garder des conditions de circulation à peu près normales dans le centre de Londres. Quand vous allez à Washington, par exemple, le périmètre est bouclé, mais parce que la manière dont la circulation est gérée fait qu'on peut encore circuler en voiture autour de ce quartier. Ici, entre Westminster et 10 Downing Street, la résidence et le bureau de Theresa May, c'est une grande artère, c'est quasiment... Ou alors, si vous devez boucler ça, il n'y a plus de vie normale dans le centre de Londres. La géographie des villes n'est pas la même d'une capitale à l'autre et donc la gestion de la sécurité des institutions n'est pas la même.
Ce type d'attaque asymétrique, est-ce que ça peut se multiplier alors que Daesh est défait de plus en plus? On va en reparler d'ici quelques minutes dans 7 jours dans le monde. En Syrie et en Irak, Bruno?
Oui, alors l'un de mes collègues du milieu de l'analyse stratégique faisait remarquer ce matin que le problème, c'est qu'on dit souvent quand Daesh est fort, ils font des attentats, quand Daesh est faible, ils font des attentats.
Quand même.
Donc l'attentat s'explique soit par la force, soit par la faiblesse.
Oui,
je crois que c'est pas tellement le sujet. Arrêtons de faire des liens artificiels entre un attentat de relativement faible ampleur en termes relatifs, celui de Londres, et la situation en Syrie et en Irak. Même s'il n'y avait pas d'opération en Syrie et en Irak aujourd'hui, il y aurait ce type d'attentat et il y en aura encore.
Alors si Daesh a frappé, en tout cas s'est attribué l'attentat, hein, n'oublions pas que nos démocraties européennes et américaines ne sont pas les seules touchées, parce que le terrorisme islamiste touche principalement actuellement dans le monde les pays musulmans. Alors justement, la lutte contre le terrorisme islamiste, comment passer à la vitesse supérieure? Washington, vous y étiez en milieu de semaine encore, Bruno Tertrais. Washington, une soixantaine de pays de la coalition mondiale contre l'État islamique étaient réunis autour de Rex Tillerson.
Notre point commun à tous qui sommes ici aujourd'hui, c'est notre engagement permanent à faire tomber cette force mondiale du mal, et je souligne le mot « engagement ».
Voilà, le chef de la diplomatie américaine qui promet la mort prochaine d'Abou Bakr el-Baghdadi, vous savez, le pseudo-calife, hein, de la même manière qu'Oussama Ben Laden, ce n'est qu'une question de temps, disait-il en milieu de semaine. Avant d'en arriver là, Bruno Tertrais, que mettent sur la table les pays pour accélérer donc la lutte contre l'État islamique?
Pas grand-chose pour l'instant. Vous savez, c'était surtout un sommet de photo opportunity, comme on dit aux États-Unis, montrer que même... dans une administration très critiquée, l'administration Trump, on peut réunir tous les partenaires.
Attendez, les 68 pays, enfin je suis capable d'en citer 4-5 des pays de la coalition, mais les principaux, enfin il y en a 68, il y en a qui font rien, qui regardent.
C'est normal, Fabrice Lundi, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de contribution militaire sur le théâtre. Et parfois, certains petits pays n'ont qu'un ou deux soldats, mais ils disent « Ah, je suis partenaire de la coalition ». Et les États-Unis disent « Bah nous, ça nous fait un pays de plus à mettre sur la photo, donc ça impressionne ». En même temps, attention, je me moque, mais c'est pas négligeable non plus de montrer qu'aujourd'hui, il y a un tiers des pays du monde, hein, un tiers, 68 c'est à peu près un tiers, qui sont physiquement engagés dans la coalition, même à titre seulement symbolique. C'est une manière aussi de montrer qu'on n'est pas dans le clash des civilisations, que ce n'est pas l'Occident contre le monde arabe. Donc c'est une manière de démonter le récit d'Aïe. Cela dit, ce sommet de Washington, soyons clairs, il n'a servi à pas grand-chose, du point de vue de la planification de la suite des opérations. Tout le monde est d'accord pour dire que...
Et notamment de l'implication américaine. Est-ce qu'ils vont envoyer davantage... Ouais. Est-ce qu'ils vont envoyer, par exemple, des soldats en uniforme, au-delà des... Oui. Je vais dire conseiller entre guillemets, bien sûr.
Oui, la question c'est de savoir s'il y aura quel type de contribution au-delà de ce qui est aujourd'hui le cas. Est-ce qu'il y aura des hélicoptères? Est-ce qu'il y aura des forces terrestres? Attention, quand je dis forces terrestres, ça ne veut pas dire les 100 000 hommes avec des chars, etc. Bon, non.
C'est pas l'Irak à la sauce 2000.
Vous comprenez bien que M. Trump, il est un peu au pied du mur aujourd'hui parce qu'il a dit, juste avant son élection, il a dit « Moi, j'ai la solution contre Daesh. » Ah bon, c'est quoi? C'est quoi? Ah, vous verrez quand je suis élu. Et en fait, on sait maintenant qu'il n'avait pas d'idée particulière. À supposer que M. Trump est la solution, en tout cas, il avait menti, ou en tout cas, il avait raconté n'importe quoi. Bon, tout le monde sait qu'il y aura une opération contre Raqqa après l'opération contre Mossoul. À quelle échéance exactement, je ne sais pas.
Jean-Yves Le Drian disait la bataille va démarrer dans quelques jours. Ouais. Jean-Luc Sauron.
Je vais revenir sur la composition. C'est très important de montrer en effet qu'il y a beaucoup de pays arabes dans cette coalition. Parce que ça, je crois que c'est quand même quelque chose de... Comme on est sur un discours de Daesh sur les croisés contre les mécréants, contre les musulmans, je crois que c'est important de montrer ça. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais là-dessus, l'annonce qui a été faite avant-hier par l'équipe du président Trump, parce qu'on a un peu de mal à cerner qui dit quoi.
Sûrement, oui, bien sûr.
Qui est aussi riche
entre Matisse, entre Tillerson et entre Trump, souvent c'est pas très clair.
Hein. Aussi riche, aussi contradictoire que l'équipe de l'OTAN. Ils ont quand même annoncé qu'ils allaient envoyer, je crois, 1000 hommes des forces spéciales pour renforcer l'intervention. Or, il avait quand même indiqué qu'il n'était pas question d'aller dans les aventures extérieures. Donc, on voit bien quand même que très très rapidement, il rebat toutes les cartes qu'il avait mises dans tout le discours. J'irai pour nous, heureusement, mais il a totalement changé de cap.
On verra justement d'ici une dizaine de minutes à peu près, on s'intéressera donc à ce qu'a fait aussi Donald Trump depuis deux mois, justement. Il a beaucoup de difficultés à diriger le pays. Implication militaire américaine a précisé Bruno Tertrais, mais apparemment surtout pas d'implication politique dans ce qu'on appelle le nation building ou la reconstruction. Ils vont pas recommencer à venir installer la démocratie je ne sais où, en Syrie ou à nouveau en Irak.
Oui, ça c'est vraiment au moins un point de référence de la politique de Trump dont on est à peu près sûr qu'il ne va pas changer. C'est une administration qui n'est pas là pour faire du changement de régime à froid, comme ça du jour au lendemain, comme vis-à-vis de l'Irak. Ça n'est pas non plus une administration qui souhaite s'impliquer pendant 10 ans, comme ça a été en Afghanistan, pour reconstruire véritablement les structures d'un pays. Et ça, je serais très surpris qu'effectivement, sur ce point, M. Trump change de discours ou de position.
À ce propos, des accords toujours entre les États-Unis et la Turquie, sur qui doit conduire l'assaut final sur Raqqa, la capitale, entre guillemets, de l'État islamique, donc qui se trouve dans le nord de la Syrie. Oui, la Turquie, elle ne veut pas que les milices kurdes y participent. Des milices pourtant fer de lance de cette force arabo-kurde, justement, les FDS, les forces démocratiques syriennes, que soutiennent justement les États-Unis. Comment ça va se résoudre, cette affaire, cette bisbille entre Turquie et États-Unis?
Il est encore plus compliqué que ça, parce que vous avez aujourd'hui un pays, la Turquie, qui est en bisbille à la fois avec ses principaux partenaires occidentaux, les États-Unis à cause de la Syrie, mais aussi, on en parlera peut-être, l'Allemagne, les Pays-Bas, donc à peu près avec tous ces grands partenaires de l'OTAN. Mais le même pays est dans le même temps en bisbille aussi avec son nouvel ami, la Russie. La Turquie n'est pas formellement alliée de la Russie, mais elle est censée être le grand partenaire avec l'Iran aussi, de cette autre coalition, Russie, Turquie, Iran, qui elle... conduit ça, la bataille contre Daesh à sa manière. Et la Turquie est un peu au milieu maintenant. Alors quand on disait en France, quand on est au centre, on disparaît il y a quelque temps. Je ne sais plus si c'est encore vrai aujourd'hui, mais la Turquie, elle ne sait plus très bien où elle habite, si vous me permettez l'expression.
Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Dauphine.
Moi, ce qui me fascine, c'est l'alliance, malgré tout, malgré ses limites, entre les deux grands pays non-arabes du Moyen-Orient, la Turquie et l'Iran. Et ça, c'est quelque chose d'assez avant. Ça complexifie énormément le terrain. Mais c'est vrai que lorsque on examine les cartes du terrain, il y a une espèce d'imbrication totalement délirante avec les troupes russes qui, par moment, empêchent les troupes turques d'avancer. En effet, les Américains qui, au jour, ont bombardé par erreur, sans faire exprès...
Cette semaine,
voilà, oui. Bon,
c'est dizaines de civils morts, quand même.
Voilà, mais je veux dire, on sent bien, oui, mais... aussi pour bloquer certaines avancées. Moi, je suis moins persuadé, mais j'ai moins de connaissances que Bruno, que les États-Unis, si on prend Barack Obama, il n'était pas du tout sur la ligne de ce qu'il a fait sur ces deux mandats.
Deux mandats, ouais.
Donc, moi, je trouve qu'au contraire, Trump bouge beaucoup, enfin, parce que la nécessité fait loi un peu aussi.
Bruno Tertrais, un mot.
Oui, je suis d'accord. On ne peut pas exclure que le président Trump, après tout, qui est quelqu'un qui est prompt au sursaut et au revirement, décide que dans 2 ans, eh ben, il faut altérer la politique américaine sur certains dossiers. Mais enfin, il y a quand même une colonne vertébrale, si j'ose dire, politique sur le thème. L'Amérique d'abord et notre démocratie et notre économie sont plus importantes que l'économie et la démocratie en Afghanistan ou en Irak. Ça, à mon avis, ça ne bougera pas.
Avant de partir aux États-Unis, justement, qui vont beaucoup nous occuper aussi dans 7 jours dans le monde, donc ce week-end sur BFM Business. Encore un mot sur la façon de lutter contre le terrorisme. C'est une question qui se pose, une réflexion d'ailleurs lancée dans la campagne présidentielle française. Est-ce qu'il faut rétablir un service national obligatoire ? Tiens, qui prend la parole ? Allez, Jean-Luc Sauron, s'il vous plaît.
Je pense que il faut bien voir que les raisons pour lesquelles nous avons en 95, non,
c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était sous Chirac, quoi.
Sous le président Chirac, arrêté le service militaire. C'était essentiellement non pas des raisons philosophique, mais essentiellement économique. Je crois que l'ensemble, hors du débat présidentiel, on sent bien qu'il y a un défaut de lieu de construction, de sociabilisation de générations et de gens de milieux extrêmement différents, une espèce de morcellisation, de balkanisation du territoire. Moi, personnellement, tout en connaissant le coup que ça représente, tout en ayant des souvenirs mitigés du service militaire, parce que j'ai eu l'âge de l'effectuer dans les forces françaises en Allemagne, parce que les jeunes
FFA.
Peuvent
à
comprendre
Baden-Baden ou à Trèves, je ne sais pas.
À côté bon, de Sarre, oui. Il y a quand même la Suède qui le rétablit.
Oui.
Et d'autres États sont dans cette réflexion.
Ouais.
Et donc je pense qu'il faut instruire, je vais terminer là, mais il faut voir ce rétablissement aussi dans un mouvement européen de remobilisation aussi de l'opinion, parce que véritablement et sans alerter, il y a des dangers de guerre partout, et je suis pas sûr qu'on puisse fonctionner toujours qu'avec des forces d'expédition.
Bruno Tertrais, de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Ouais. Nous ne sommes pas la Suède, ni la Finlande, ni les Pays-Baltes, ni la Pologne. Il n'y a pas, contre la France, de menace d'invasion militaire, ou en tout cas de grands conflits militaires, immédiatement aux frontières. Donc nous n'avons pas de besoin militaire de rétablir la conscription aujourd'hui. Deuxièmement, les armées ne sauraient pas faire. Les armées ont totalement changé de logiciel, de mode de fonctionnement, elles se sont adaptées. C'est d'ailleurs probablement le corps de l'État qui s'est le plus rapidement et le plus profondément adapté depuis 20 ans. Les militaires ont complètement changé de logiciel et de mode de fonctionnement. Donc les armées ne sauraient pas faire, et surtout elles n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, un pays comme la France, il a besoin de moins de soldats, enfin, pas moins qu'aujourd'hui, hein, mais en tout cas, moins que pendant la guerre froide.
Comme on dit, on est un peu à l'os, voilà, bien sûr.
Bien équipé, bien entraîné, très professionnel.
Et avec du bon matériel.
Et avec du bon matériel. Aujourd'hui, les armées ont bien davantage besoin d'augmenter leurs effectifs professionnels que de rétablir la conscription. La question qui est en débat aujourd'hui, y compris dans la campagne présidentielle, c'est de savoir s'il faut un temps, pas le même service qu'à l'époque. Moi, j'ai un très bon souvenir de mon service sur le plan de l'intégration sociale, par ailleurs, du brassage social plutôt d'ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un temps qui peut être d'un mois, de quelques mois, je ne sais pas, une semaine, 6 mois, probablement plutôt entre les deux, hein, qui servent à la fois pour la réserve, non pas pour les militaires qui vont en opération, mais pour la réserve militaire, qui soit un temps aussi d'acclimatation et de connaissance de la chose militaire, des questions de la défense
des institutions en général, bien sûr.
Et puis, troisièmement, aussi, et peut-être surtout, qui soit un temps républicain, un temps d'intégration et de brassage social. Donc le débat, c'est pas sur le rétablissement de la conscription à l'ancienne, c'est sur une nouvelle forme de service national. Très court.
Oui, Jean-Luc Sauron.
Non, mais en effet, moi, je ne souhaite pas établir ce que j'ai connu, apprendre à jouer au tarot ou d'autres, si tu en as fait une occupation intéressante.
Bravo.
Mais ce n'est pas extrêmement défensif. Mais je crois véritablement que, au-delà de ce brassage social, il y a quand même aussi l'idée de la nation en armes. C'est-à-dire pas le service militaire traditionnel, mais je pense qu'il faut réinjecter dans le mental, dans l'inconscient collectif, qu'il va falloir demain se défendre, et que ces 60 ans de paix dont on parlera tout à l'heure, Il faut maintenant, aujourd'hui, peut-être se mobiliser.
Question qui s'intègre, bien sûr, dans le relèvement des budgets de la défense. Elle a aussi discuté dans la campagne électorale, préoccupation des États-Unis, notamment vis-à-vis des pays de l'OTAN. Donald Trump, on en reparlera évidemment d'ici le 25 mai, il sera à Bruxelles pour essayer de tenter de rassurer ses alliés. Juste un mot, Bruno Tertrais, les 20 prochaines années, l'avenir vu par les services de renseignement américains. C'est votre tout dernier opus. Comment imagine le renseignement américain dans 20 ans? Vous y parlez de protectionnisme, d'isolationnisme, de blocs régionaux également, d'États moins puissants, peut-être au profit de religions, d'entreprises de plus en plus fortes aussi.
Oui, alors dans ce rapport des services de renseignement américains que je présente effectivement aux éditions Les Arènes sous le titre Les 20 prochaines années, il y a en fait deux horizons. Il y a les 5 prochaines années et il y a les 20 prochaines années. C'est un rapport assez intelligent parce que il se contente pas seulement de dégager les grandes tendances, il fait aussi, là pour l'horizon 2037, pour faire simple, trois grands scénarios. Il y a un monde que j'ai appelé moi dans mon commentaire le monde de Trump, un monde très protectionniste où les grandes puissances c'est du chacun pour soi, chacun chez soi, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Europe, le Japon. Il y a un monde, alors là pour le coup que j'ai appelé le monde de Poutine, qui est un monde dans lequel, à l'inverse, chacun essaye d'élargir ses sphères d'influence, comme on disait dans la géopolitique du 20e siècle, et là qui est beaucoup plus un monde de compétition, donc a priori un monde un peu plus dangereux, ou encore plus dangereux. Et puis il y a le troisième scénario, qui est le plus inventif, le plus original, et peut-être le plus positif aussi, c'est ce que j'ai appelé le monde de Bill Gates, qui est en gros un monde dans lequel, comme vous le suggériez...
Ou de Google, on a compris.
C'était pour trouver un personnage
qui est emblématique, bien sûr.
Dans lequel, là, pour le coup, les États auraient beaucoup moins de puissance au bénéfice des entreprises, des régions, des villes, c'est notamment les grandes agglomérations de plus de 10 millions d'habitants, mais aussi les groupes terroristes, les églises, toutes les entités non étatiques.
Ouais, donc c'est l'avenir vu par les services d'enseignement américains les 20 prochaines années. C'est présenté par Bruno Tertrais. Oui, on parlait de l'OTAN justement qui a décidé de renforcer. Et vous parliez de la Suède qui ne fait pas partie de l'OTAN, la Suède, mais de relancer le service national. Parce que certains pays européens considèrent qu'il y a une menace sur le flanc Est, justement, et confère ce qui s'est passé il y a 3 ans avec l'annexion donc de la Crimée par la Russie. Oui, a signalé cette semaine, passé un petit peu inaperçu au milieu de l'attentat de Londres quand même, l'assassinat jeudi à Kiev, où il s'était réfugié, d'un ancien député russe qui avait accusé Moscou d'avoir planifié depuis longtemps l'invasion du Donbass. On parle évidemment donc de l'Est de l'Ukraine. Et puis les tensions qui se nichent souvent, Jean-Luc Sauron, là où on ne les attend pas. L'Ukraine, vainqueur de l'Eurovision 2016, va donc organiser en 2017, au mois de mai, la suite, l'édition en 2017 du concours de l'Eurovision. Mais elle refuse d'accorder un visa à Yulia Samoïlova, la jeune artiste qui va représenter la Russie. Ce serait par satellite ou rien. Bon, la Russie dit, on n'ira pas. On en arrive là quand même à ce point-là.
Ah mais je crois qu'il y a tout un niveau de tension. On parlait de l'assassinat de ce député russe qui avait trouvé... Alors, il était mal en plus, si je puis dire, blanc-bleu, donc je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé. Mais je veux dire, il y a une tension. À côté de cet épisode sur la chanteuse russe, vous avez la rupture des relations économiques entre le Donbass, donc la zone qui est occupée par les séparatistes avec le soutien des Russes, et l'Ukraine. Vous avez les élections bulgares ce week-end, partis soi-disant politiquement opposés, les pro-européens du Gerbe et les socialistes. En réalité, les deux deviennent pro-russes. Donc il y a une pénétration, une influence sur le front Est.
On l'a vu en Moldavie, là, il y a quelques mois.
Tout à fait, une réoccupation idéologique par les Russes de l'espace de l'Est qui est quand même très, très important.
Bon, on va continuer 7 jours dans le monde dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio, toujours avec Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Oui, Donald Trump qui a bien du mal à diriger son pays, et puis Angela Merkel qui en a assez de se faire traiter de nazi toutes les 5 minutes par Erdogan. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, comme tous les week-ends sur BFM Business, à la télé et à la radio, retour sur l'actu internationale de la semaine avec Bruno Tertrais qui nous accompagne, c'est le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui présente donc les 20 prochaines années, l'avenir vu par les services de renseignement américains. On risque d'en reparler dans un instant. Jean-Luc Sauron est également avec nous. Faites l'Europe, pas la guerre. Il est professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Les États-Unis justement, tiens, on y vient tout de suite. Ça fait 2 mois seulement que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Mais dirige-t-il vraiment les États-Unis? A-t-il vraiment les clés du pays? On l'a vu avec ses difficultés pour abroger l'Obamacare, sa bête noire durant la campagne. On se souvient aussi comment ses décrets anti-musulmans, anti-immigrés ont été retoqués à plusieurs reprises par des juges fédéraux. Ça veut dire quoi? Tiens, Bruno Tertrais, vous étiez encore aux États-Unis cette semaine à Washington. Deux mois après, Trump n'arrive pas à gouverner comme il l'entend, alors qu'il a une majorité à sa couleur, alors qu'il a une Cour suprême bientôt à sa couleur. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que peut-être que M. Trump a oublié que les États-Unis, c'est pas une entreprise et que vous n'êtes pas le CEO, le Chief Executive Officer de la maison Amérique. Et figurez-vous, c'est une vraie démocratie qui ne fonctionne pas comme la démocratie française, plutôt comme la République française, qui est toujours aujourd'hui plus centralisée, plus présidentiel, plus monarchie. Il y a de vrais contre-pouvoirs aux États-Unis, ce qu'on oublie parfois ici, parce que il y a un Congrès qui n'est pas du tout une chambre d'enregistrement, mais qui est un vrai contre-pouvoir. La Cour suprême, vous en avez dit un mot. Mais ce dont on est en train de se rendre compte, surtout, c'est que les services de renseignement américains sont aussi une forme de contre-pouvoir.
On va en parler instant, d'ici 2-3 minutes, comment le FBI justement a attaqué Trump cette semaine.
Ouais. Voilà, mais je crois qu'il y a une espèce de frustration de la part de Donald Trump. Si vous le suivez sur Twitter, vous en apercevez assez rapidement, même à peu près tous les jours, parce qu'il se rend compte on ne gouverne pas simplement en appuyant sur des boutons à Washington.
Ouais. Les républicains, Jean-Luc Sauron, se rebellent contre celui qui avait joué le peuple contre les politiciens aussi?
Pour prolonger ce qu'a dit Bruno, je crois qu'il y a un différentiel avec la France, c'est que le vrai pouvoir aux États-Unis, c'est le Congrès. C'est-à-dire, c'est les représentants et les sénateurs. Et je crois que c'est dans la Constitution américaine, d'ailleurs, que cette phrase, c'est que le sang du pouvoir, c'est le Congrès. Et ça, je crois, en effet, que cet executive main, qui a bâti des tours, a beaucoup de mal à gérer ça. D'ailleurs, on peut remarquer que depuis quelques temps, on a moins de reportages dans le bureau ovale avec son stylo à signer le pouvoir, etc.
Décrets, oui.
Qui a tellement eu de mise en boîte sur les réseaux sociaux qu'il a peut-être arrêté. Mais je crois en effet que, et c'est en effet intéressant de voir qu'au sein même de sa majorité, en fait c'est pas sa majorité, ce sont les républicains. Il doit déjà négocier, puisque même sur l'Obamacare, même là-dessus, il y a des débats aussi.
Oui, bien sûr.
En disant, mais est-ce que c'est logique?
Ça veut dire quoi? C'est qu'un début, après l'Obamacare, les républicains vont se manifester sur ces réformes fiscales, ces réformes budgétaires, les grands plans d'infrastructure aussi?
Moi, je quitte à répéter ce qu'a très bien dit Bruno, je crois que c'est quand même une manifestation de ce que c'est une vraie démocratie, quoi. C'est-à-dire qu'un changement de président n'emporte pas tout. Ouais. Et qu'en effet, tous les contre-pouvoirs, y compris d'ailleurs la Cour suprême, dans le passé, il y a eu beaucoup de surprises de soi-disant Cour suprême totalement monocolore, ou soi-disant bien gérée. En réalité, ces gens ils savent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'équipe des pouvoirs.
Tout juste.
Et je dois dire que certains éléments devraient être repris dans d'autres États, mais
bon. Je sais pas, par exemple, quel bilan, deux mois, franchement, de Donald Trump? Alors, on va dire, oui, c'est peut-être trop tôt, il reste quand même encore 3 ans et 10 mois à diriger, mais quand même, est-ce qu'on peut faire un bilan mince ou pas?
Mince, mais très fort sur le plan symbolique.
Oui.
Il a fait deux choses qui faisaient partie de ses promesses de campagne les plus fortes. Un, j'abandonne la négociation des grands traités de libre-échange. Et c'est quand même pas rien, même si c'était plus des décisions négatives que des décisions positives. Deuxièmement, j'engage la construction de ce fameux mur. Alors là encore, c'est pas une révolution, parce qu'il y a déjà une
des pans de mur, bien sûr.
Voilà, il y a déjà des pans de mur. On a appris qu'une grande entreprise française, d'ailleurs, a décidé qu'elle ne participerait pas.
On l'a dit sur BFM Business, Vinci en début de semaine, et puis Lafarge donc en fin de semaine.
Mais après tout, soyons clairs, on peut discuter. C'est ça qui est vraiment discutable de sa politique d'immigration et de ses décisions curieuses vis-à-vis de certains pays majoritairement musulmans. En même temps, le mur qui a focalisé l'attention, c'est pas ça le principal, parce que le mur, il reste quand même sur la frontière, et que même les États-Unis, M. Trump, ont le droit de contrôler leurs frontières.
Et puis on le disait tout à l'heure, c'est Jean-Luc Sauron, je crois, qui faisait allusion. Parfois, on a du mal un peu à comprendre quelle est sa véritable politique internationale, avec les déclarations de Trump lui-même, de Tillerson, le chef de la diplomatie, du général Mattis à la tête du Pentagone. Isolationnisme, on voit quand même, Donald Trump qui a commencé cette semaine à couper dans l'enveloppe destinée aux Nations Unies, Bruno Tertrais, vous l'avez vu, il veut couper dans le budget des casques bleus, de l'environnement, de la santé dans le tiers-monde. Ce qu'il disait, Trump, pendant la campagne, l'ONU, c'est juste un club de gens qui se réunissent, qui bavardent, qui passe du bon temps. Les États-Unis, c'est quand même un cinquième du budget de l'ONU.
Oui, là, on se retrouve véritablement aux premières années de l'administration Bush, qui avait le même type d'orientation budgétaire et le même type de préférence, ou plutôt de non-préférence, vis-à-vis de l'ONU et d'institutions censées incarner, symboliser le mondialisme, un internationalisme qui était associé, là, pour le coup, à l'équipe Clinton. Il y a quand même au moins une différence, c'est que là, sous Monsieur Trump, le projet de budget qui est pas encore un budget. Là encore, on est aux États-Unis.
Projet
de budget soumis au Congrès. Le Congrès généralement fait pas mal de choses au budget. Là où il y a vraiment une coupe très importante, qui est quasiment une éviscération, c'est l'Agence de protection de l'environnement, Environmental Protection Agency. Et là, c'est vraiment un discours extrêmement fort de démantèlement d'un certain nombre de réglementations. C'est pas seulement vis-à-vis du changement climatique, mais c'est aussi vis-à-vis de ce que une bonne partie du camp républicain estime être un corpus de réglementation excessive, défavorable
à l'économie, à l'entreprise, etc.
Exactement. Ça, c'est vraiment très très fort.
Ouais, vous me dites un mot justement aussi, Jean-Luc Sauron, on a parlé d'isolationnisme, le protectionnisme aussi, ça y est, c'est lancé, ce qui s'est passé à Baden-Baden le week-end dernier lors du G20 Finance, où l'administration Trump a bloqué l'adoption d'une résolution hostile au protectionnisme, a indiqué qu'elle n'excluait pas de quitter l'OMC. Changement significatif quand même, virage à 180 degrés pour les États-Unis.
Oui, mais enfin, si je veux revenir sur le libre-échange, par exemple sur le TAFTA, c'est-à-dire l'accord avec l'Union européenne, dans l'administration Trump, il y a des perches qui sont en disant finalement c'est pas le même problème que l'Asie, on va peut-être continuer à négocier avec les Européens, donc ça se brise un peu. Il y a aussi, à mon avis, la réalité, il a fait un symbole très fort en sortant de la négociation avec l'Asie, immédiatement la Chine a occupé la place vide.
Ah oui,
je pense que les
c'est
Américains,
ça que c'est paradoxal, ouais.
Je pense que
perdu le leadership américain, on profite d'autres.
Non, mais je pense que véritablement, espèce de politique du symbole, c'est un peu dévastatrice.
Il fait un coup de menton, il fait une décision un peu à l'emporte-pièce sans se poser des questions sur la suite.
Que, franchement, est-ce que c'est très important que dans un communiqué du G20, on enlève le mot libre-échange, protectionnisme? Je crois pas, vu la portée des communiqués du G20, mais bon.
Les contre-pouvoirs dont vous parliez, Bruno Tertrais, il y a un instant, Donald Trump qui a aussi fort affaire avec ses propres services de renseignement, le directeur du FBI qui explique sous serment qu'aucune information n'était les accusations du président contre Barack Obama, son prédécesseur, qui l'aurait mis sur écoute. Vous en souvenez de ces accusations de Trump? Le même James Comey qui confirme les investigations sur une éventuelle collusion des proches de Trump avec la Russie. Là aussi, on s'en souvient, c'était quelques jours avant l'intronisation donc du 20 janvier. Double désaveu pour Donald Trump. Il est fragilisé donc après ces déclarations du patron du FBI.
Oui, j'étais effectivement à Washington le jour de ces auditions et je peux vous dire que quand le directeur du FBI a prononcé cette phrase, donc sous serment, qui voulait dire « nous enquêtons actuellement sur les liens entre non seulement la campagne, mais peut-être même le candidat Trump lui-même avec la Russie », on a eu l'impression que toute la ville s'arrêtait pendant quelques instants.
Ouais.
Parce que c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà dans un contexte dans lequel certains conseillers de M. Trump ont été obligés de démissionner pour des liens excessifs avec la Russie. Et puis là, ça vient d'une institution qui est le directeur actuel du FBI, quelqu'un de plutôt respecté. Et donc, ça veut dire que là, pendant tous les prochains mois, parce que ce type d'enquête va durer des mois, il va y avoir cette suspicion dans les liens qu'a entretenu. La question, c'est à quel degré et jusqu'à quel niveau, et avec éventuellement quel type de moyens financiers. On parle beaucoup du directeur de campagne de M. Trump, qui avait des liens extrêmement forts financièrement avec la Russie. Et tout ça va pourrir finalement, non seulement l'ambiance de gouvernance à Washington, mais aussi l'ensemble, ça va colorer l'ensemble des décisions de politique extérieure des États-Unis. Et c'est bon pour personne. C'est bon pour personne parce que quoi qu'il se passe à Washington, tout le monde a intérêt à ce que les États-Unis aient une politique claire et bien définie. Et donc malheureusement, je crois qu'on est parti pour véritablement une période assez longue de montagne russe, si j'ose dire.
Sans jeu de mots.
C'est vous, est-ce qu'on dit, on dit roller coaster
Donc.
aux États-Unis, j'emploie délibérément le mot de montagne russe
bien sûr.
Vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment à Washington, notamment sur la Russie.
À Washington, il y a eu cette rencontre glaciale, vous en souvenez, c'était le week-end dernier entre Donald Trump et Angela Merkel. Alors, on dit qu'il n'a pas voulu lui serrer la main, très bien. Bon, Angela Merkel, justement. trop c'est trop. C'est la chancelière fédérale qui en a assez des accusations récurrentes du président turc Erdogan sur les pratiques nazies donc de l'Allemagne à propos de l'interdiction de certains meetings. Oui, pratiques nazies de l'Allemagne et puis des Pays-Bas aussi. Ça fait deux semaines, vous savez qu'on en parle. Je cite Erdogan quand même, sa dernière déclaration cette semaine. Écoutez bien, à l'emporte-pièce, s'il n'avait pas honte, il parle des Allemands, il remettrait à l'ordre du jour les chambres à gaz et les camps. Seulement, il n'ose pas encore. Réponse d'Angela Merkel.
Malheureusement, nous devons constater que ces comparaisons n'ont pas pris fin et nous n'allons pas tolérer que la fin justifie toujours les moyens et que tous les tabous tombent. Sans respect pour la souffrance de ceux qui ont été poursuivis et assassinés durant le national-socialisme.
Voilà Angela Merkel, très en colère, on la comprend. On avait l'impression, Jean-Luc Sauron, jusqu'à présent... Bon, elle tempérait quelque part, Angela Merkel, pour essayer peut-être de ménager quelque peu les relations entre l'Allemagne et la Turquie, notamment le fameux accord sur les migrants, histoire de pas tout casser. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ?
Je pense que la politique allemande va considérablement se durcir. Rappelons-nous que nous allons rentrer en campagne électorale. Bien sûr, ce discours passe extrêmement mal.
Passer de la campagne électorale allemande du 24 septembre, là, parce qu'il y a aussi l'autre campagne électorale turque.
Le 16 avril,
avec le référendum pour renforcer les pouvoirs du président.
Je rappelle que Erdogan compare le régime présidentiel qu'il va instaurer à la 5e République française, en disant, mais je fais comme le président français, j'ai pas cru.
Réalise un peu. Voilà, mais c'est décidé par Michel Debré, le général de Gaulle. Voilà.
Oui, je suis pas sûr qu'il y ait le temps. Je pense vraiment qu'il y a un cap, et moi je trouve que l'incorrection de Trump avec Mme Merkel n'a pas été suffisamment marquée par les Européens.
Non.
Parce que c'est véritablement scandaleux. Ouais. Parce que derrière Mme Merkel, c'était l'Europe et son attitude très étrange. Sur la politique à la Turquie, je crois que les Allemands, qui ont énormément d'intérêts économiques, n'ont jamais pris de gants sur les valeurs et les droits fondamentaux. Je veux dire qu'ils sont allés en Chine. Quand Mme Merkel va en Chine, elle parle des droits fondamentaux et des contrats. Mais elle parle des droits fondamentaux. Quand elle va à Moscou, elle parle des droits fondamentaux, elle parle des contrats. Je pense que M. Erdogan a sous-estimé la capacité de contestation de sa propre politique et d'effet boomerang sur la communauté turque, d'Allemagne, sur la communauté d'origine. Et pour terminer, je trouve, moi, tout à fait dommage que sur cette malheureuse histoire des meetings... pro-Erdogan en Europe, qui n'ait pas eu une position décidée à 28. Ouais. Ce qui aurait évité quand même cette division qu'on a vue
il y a deux semaines avec des meetings interdits en Allemagne, aux Pays-Bas, et puis à Metz qui finalement se tient.
Ça a été vraiment très dommageable et je pense que ça a renforcé Erdogan dans son idée qu'il peut taper sur Mme Merkel.
Le scrutin justement du 24 septembre, ça y est, Angela Merkel, elle connaît officiellement donc son principal challenger, son principal adversaire, c'est Martin Schulz, intronisé le week-end dernier par le SPD à Berlin à l'unanimité.
Nous voulons que le SPD devienne la première force politique du pays avec les élections législatives. Pour faire de ce pays un pays meilleur et plus juste, pour que les gens de ce pays obtiennent le respect qu'ils méritent. Et je veux, chers membres, devenir chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Merci beaucoup.
Oui, accueilli en rockstar, Martin Schulz. Nous sommes de retour, disait-il. Il a des chances ou pas ?
Oui. Oui. Oui, il a des chances. Surtout que la CDU se divise un peu à la base. Il faut savoir que Mme Merkel a été réinvestie, je dirais, présidente de la CDU, un score 89%. C'est pas mal.
Moins que d'habitude.
Alors que, vous l'avez pas dit, je l'ai pas entendu, M. Schulz a été investi à 100%,
ouais, unanimité, bien sûr,
un score quand même très fort. Je pense que c'est une personnalité neuve. Je pense en effet...
Premier test ce dimanche, l'élection régionale en Sarre.
Qui est une région socialiste, donc c'est intéressant. Ouais. Mais je pense véritablement que les Allemands aussi un peu... Alors, il y a aussi le syndrome du quatrième mandat, qui est toujours un très mauvais mandat. Pour Kohl qui a fait 4, et je pense que ça peut jouer contre Mme Merkel parce que M. Schulz est très convaincant et solide.
Vous restez avec nous, Jean-Luc Sauron et puis Bruno Tertrais, bien sûr, à suivre les 60 ans du traité de Rome, anniversaire. Mais fait-on la fête ? Pas sûr. À tout de suite, 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Bruno Tertrel, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et le professeur Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine, justement, voilà, avec cet anniversaire. Les 27, oui, sans Theresa May, hein, à Rome, réunis donc ce vendredi, ce samedi, pour les 60 ans du Traité de Rome, 25 mars 1957, instituant la CE, avec au départ seulement, vous en souvenez peut-être, hein, je ne sais pas, l'Allemagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique. C'était quoi au début le but, Jean-Luc Sauron ?
Le but, c'était véritablement de participer à la reconstruction économique de l'espace ouest européen, totalement dévasté par la guerre, remonté par le plan Marshall, et consolider cette partie de l'espace européen face au bloc soviétique. Donc il n'y avait pas de projet civilisationnel, il n'y avait pas de projet de brassage des peuples. C'était vraiment l'idée que la Deuxième Guerre mondiale était née du fait de l'autarcie, du fait de l'enfermement, de l'augmentation des droits de douane. Alors, rappelons-nous que ces Américains ont augmenté les droits de douane, puis partout c'est parti ailleurs, en 29, et ça a créé ça. D'où cette idée de dire, si j'ai plus de barrières, si nous échangeons, on évitera le conflit. C'est vraiment, en 57, c'est véritablement l'axe, le
cœur du problème. Liberté de circulation des personnes, des marchandises.
Franchement, des marchandises à l'époque, oui.
Bruno Tertrais, de la FRS.
On a un petit peu oublié aujourd'hui à quel point c'était révolutionnaire, à quel point ça s'est avéré révolutionnaire de dire et de faire en sorte que les pays d'Europe ne se font plus la guerre entre eux. Et quand on dit « l'Europe, c'est la paix », le slogan a l'air un petit peu éculé. Il n'est pas forcément connu des jeunes générations aujourd'hui, mais il faut le rappeler. Ouais, ouais. À quel point, c'est pas un miracle, non. Ça a été construit, ouais. On l'a voulu, c'est de la volonté.
Ça a duré quoi, 6-7 ans, entre 50 et 57, pour construire vraiment.
Il y a eu quand même 54, il y a eu la CK.
La déclaration de Schuman, le 9 mai 1950. Voilà.
La CK, c'était justement de dire, on va mettre sous un monopole européen le charbon et l'acier, parce que le charbon et l'acier, c'est la guerre.
C'est la guerre,
c'est tout ça. Mais si vous voulez, le fait que depuis 70 ans, les grands pays d'Europe ne se sont plus fait la guerre, il faut se rendre compte, avoir un petit peu de recul historique pour se rendre compte à quel point c'est extraordinaire. Il faut le rappeler, ça paraît un peu vieille génération de dire ça, mais non, il faut dire à quel point c'est un formidable acquis de la construction européenne. Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui mais attention, maintenant on se fait la guerre de manière différente, on se fait la guerre économique. Regardez la violence avec laquelle, dites un certain type de discours, Bruxelles et l'Allemagne s'adressent à la Grèce, par exemple. Je veux bien qu'on débatte de ça, mais attention, la guerre économique, chers amis, je dis ça aux jeunes surtout, c'est pas la même chose que la guerre militaire où on tue tous les jours, où il y a des bombes et on détruit des villes entières. Il faut quand même se souvenir de ça, je trouve que c'est vraiment...
C'est bien de le rappeler, Bruno.
Cette semaine, il faut s'en souvenir.
Anniversaire, en effet, dans un contexte tendu, hein, Jean-Luc Sauron. Le Brexit, bien entendu, les craintes venues de l'Est, on l'évoquait il y a à peu près un quart d'heure, des pays au bord du gouffre, je pense à la Grèce par exemple, des frontières qui s'érigent à nouveau à cause justement de cette crise des migrants, c'est pas forcément un anniversaire joyeux, franchement.
C'est pas un anniversaire joyeux et moi je suis comme...
Bruno
Français et comme... Non, comme Français et partisan de l'époque des Lumières, un peu effondré par le fait que la cérémonie va avoir lieu dans le salon des Horaces et Curias à Rome, qui est le salon dans lequel le traité de Rome a été signé. Franchement, il manque plus que la patte de lapin et
le... Le trèfle à quatre feuilles.
C'est dramatique. En 95, lorsqu'on a relancé l'Union, on est venu à Messine, là où il y avait eu la conférence avant le traité de Rome, on avait écouté la même pièce dans le même théâtre antique. Il y a quelque chose d'un peu mortifère. C'est bien de venir à Rome. Est-ce que c'était finalement à Rome qu'il fallait fêter ce 60e
anniversaire ? Vous l'auriez fait où, vous, Jean-Luc Sauron ?
Eh bien, moi, je l'aurais fait dans toutes les capitales au même moment. Ouais. Et fait une cérémonie coordonnée dans les 27 États. Parce que encore cette photo. Il y a un truc qu'il faudrait supprimer d'un conseiller européen, c'est à la photo. non mais tout le monde. Ça sert à rien.
Ça sert à rien, on ne sait même pas qui c'est.
Voilà, on s'attend, on ne sait même pas qui c'est. Ouais. C'est du faux symbole. Non, j'aurais fait un truc coordonné.
Oui, mais quand même, un truc coordonné, comme vous dites, Jean-Luc Sauron, dans les 27 capitales. On ne parle pas de Londres, évidemment, puisqu'ils sont en plein Brexit, hein, qui va être vraiment déclenché à la fin du mois, la semaine prochaine, exactement le 29. Mais 60 ans après, quand on parle de Rome, franchement, Bruno Tertrais, Jean-Luc Sauron, c'est pour mettre en avant quoi, souvent ? Sa panne, son absence, ses divisions entre les pays de l'Est, les pays de l'Ouest, entre le Nord et le Sud, son inefficacité contre la crise.
Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment européen en 2017?
Il n'y a pas, et je crois qu'il y a aussi un problème générationnel. Même si vous êtes très jeune, Fabrice,
oui, sûrement.
Je pense que nos enfants, eux, ont un sentiment d'appartenance à l'espace européen que des gens un peu plus matures, comme Bruno et moi, nous avons par adhésion volontaire. Alors que ça, je crois que c'est vraiment dans leur chair, dans leur trip. Et je pense qu'il y a un vrai danger, c'est que les jeunes Européens, parce que c'était pour le Brexit, les jeunes Européens britanniques, qui étaient très contre le Brexit, contre tout ce qu'on a raconté, ne sont pas les votés en masse. Et ça, c'est ce problème. Il faut dire aux jeunes que c'est leur avenir. Mais que si, demain en France, à la rentrée en Allemagne, ils ne vont pas voter, ils ne s'investissent pas, un petit mot comme militant européen, toutes les associations militantes pro-européennes, c'est des gens très actifs, mais qui ont plus de 60 ans, croyez-moi, bien plus de 60 ans, et il y a très peu de jeunes dans ces structures, c'est un signe aussi.
Bruno, c'est quoi les acquis de l'Europe et est-ce qu'il reste encore à faire aujourd'hui?
Mais les acquis de l'Europe, mais comme le disait Jean-Luc à l'instant, c'est premièrement, c'est peut-être la première chose, le fait que les jeunes d'aujourd'hui ne se posent plus la question de savoir s'ils sont européens ou pas, ils le sont. Ils voyagent, ils visitent, ils étudient, ils travaillent. Aujourd'hui, ils pensent leur avenir en tant qu'européens, même sans le réaliser. Regardez par exemple Erasmus, le programme Erasmus qui leur a permis, qui permet à un très grand nombre d'entre eux...
Ça fait quoi Ça fait 25, 30 ans que ça existe,
oui, mais
cette histoire.
Aujourd'hui, c'est totalement inscrit.
Bah oui, bien sûr, c'est pour ça. Dans le paysage universitaire,
dans le paysage,
bien sûr.
Voilà. Donc, je crois que c'est très difficile de faire rêver avec l'Europe aujourd'hui, mais je crois que la première chose à faire, c'est de permettre à chacun, et pas seulement les jeunes, de se rendre compte à quel point cet acquis, un, il est important, il a changé totalement notre vie, deux, il est fragile, il n'est pas totalement acquis, en tout cas, il n'est pas totalement gagné, il faut se préserver. Il faut là-bas, avant d'aller plus loin, il faut d'abord préserver l'acquis parce qu'il est important.
Un mot sur avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de l'Europe? C'est quoi les priorités, si vous deviez les définir en... Allez. Un, deux, trois mots, Jean-Luc Sauron.
En mots, je pense que c'est une défense par rapport au monde, aux problèmes internationaux, c'est tout ce qui est migratoire. C'est une croissance économique, parce qu'on a raconté que l'euro, c'était l'assurance de la croissance économique.
Il y a quand même... Avec le risque que l'Europe évolue à plusieurs vitesses, hein, vous le savez.
Oui, enfin, il y a quand même 29 millions de pauvres en Europe. Il y a 20 millions de chômeurs. Je crois qu'il y a un vrai problème. Donc, c'est, je dirais, croissance, défense, et puis certainement progrès scientifique, parce que les Britanniques vont ressentir ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'usine, de laboratoire sérieux qui travaille uniquement au niveau national.
Le mot de la fin, Bruno Tertrais.
Le mot de la fin, je crois que c'est pour convaincre, l'Europe doit montrer qu'elle protège. Protéger les frontières extérieures et protéger aussi pour montrer que la construction de l'euro, on doit la compléter par des formes de gouvernement économique qui montrent que la monnaie commune, c'est aussi une protection. Si on n'arrive pas à montrer que l'Europe protège, les citoyens n'adhéreront plus au projet européen.
Merci, c'est fini pour 7 jours dans le monde. On a beaucoup parlé d'Europe. Hein. Jean-Luc Sauron, on le rappelle, hein, professeur de droit européen à Paris Dauphine.
Toujours.
Faites l'Europe, pas la guerre. Et puis Bruno Tertrais qui nous accompagnait également dans 7 jours dans le monde. C'est le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et qui vous propose, qui vous présente les 20 prochaines années, l'avenir vu par les services de renseignement américains. Très bon week-end à tous. Rendez-vous le week-end prochain avec 7 jours dans le monde.
BFM Business, 7 jours dans le monde.